Mais vous trouverez dans le Midrash Rabbah Shirashirim, référence 8:6:3, où ce verset le verset donc 16 d'Isaïe est expliqué en disant qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire, c'est parce que Dieu a dit « Onori le Shkocher ». Parce que Dieu a dit « Onori le Shkocher », eh bien, la preuve, c'est qu'il inscrit cela sur un endroit visible. Hein? Dieu demande, c'est dans notre Midrash, on dit que Dieu demande que Israël soit inscrit quelque part, soit dans le cœur de Dieu, sur la poitrine de Dieu. Eh bien, Dieu lui répond « Ta demande n'est pas raisonnable ». Et il inscrit où? Sur un endroit visible. Sur les mains. Les mains, ça se voit toujours. Les mains, c'est un endroit nu du corps. Ça, le fait qu'il y a un lien indestructible entre Israël et Dieu est inscrit de façon visible et de façon définitive. Je vous renvoie donc à ce texte de Shirashirim. Et il y a alors une différence entre le caractère irréversible de ce que Dieu décide. Et souvenez-vous alors d'un thème fondamental, c'est que les Juifs ont dit « Naasé de Nishma, nous ferons et nous écouterons ». Et pourtant, lorsque on arrive ensuite au moment où il s'agit d'accepter la Torah, c'est le Midrash célèbre que les Juifs ont peur, qu'ils veulent s'enfuir, et qu'il y a la montagne qui se dresse, n'est-ce pas? Si vous reculez, la montagne s'écroulera. Il y a donc quelque chose de l'ordre du viol. Les Juifs ont accepté librement d'abord, naturellement. Mais lorsque le moment vient de réaliser cela, eh bien, ils reculent, ils ont peur. Et Dieu, qui se rend compte que s'il n'y a pas une situation d'irréversibilité, si le honori n'est pas irréversible, eh bien, à ce moment-là, il se passera quelque chose qui sera dramatique, parce que nous serons dans la relation père-fils, et celle-ci est réversible, eh bien, comme l'enseigne souvent Rav Ashkenazi, et ça se trouve développé dans, longuement dans un autre livre du Maharal, dans le Netivot Olam, dans le Netivat HaTorah, eh bien, Dieu viole Israël. Dans le mariage entre Dieu et Israël, Dieu viole parce que, d'un point de vue de la halakha, le seul cas où le divorce est interdit, c'est... Et par conséquent, Dieu s'interdit la possibilité de renoncer à Israël. Donc, « ve'onori lo tishkocher », cela est bien de l'ordre irrémédiable. Alors, je vous livrerai à votre réflexion, à partir de ces textes, si vous voulez les approfondir vous-même, des sujets de réflexion, vous remarquerez que la famille bovine joue un rôle extrêmement important dans toute cette histoire. Je vais vous donner donc les références, parce qu'elles me paraissent quand même extrêmement importantes. Si Rav a choisi bien tout à l'heure, il pourra peut-être développer, je vais vous donner en filigrane ce à quoi je fais allusion. Voilà, si vous voulez, la biographie. Nous avons premièrement Exode, si vous voulez noter les références, je crois que c'est important. Exode, chapitre 20, verset 2, c'est dans la parcha de Yitro. Nous avons les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, n'est-ce pas? Je suis le Seigneur ton Dieu. Donc ceci, c'est le lien irréversible. Nous avons ensuite, dans Exode 20, chapitre 20, verset 2, dans la parcha de Yitro, Anochi, ce sont les 10 commandements. Nous avons ensuite, dans Exode, chapitre 24, verset 3 au verset 8, nous avons la description des premiers sacrifices que Israël fait dans le désert. Et ces premiers sacrifices, dans le verset 5, il est précisé, « Va'yalu olos », ils ont fait olos, notre fameux olos, le ol. Et la fin du verset, on précise, c'était « forim », parim, c'était des taureaux. Donc dans le même verset où l'on dit pour la première fois, les Hébreux donnent des sacrifices, dans le même verset 5, on dit « va'yalu olos », ils ont fait monter des sacrifices, et c'était des taureaux. Et dans le verset 7, dans le même verset 7, donc qui suit, il y a Naasé Benishma. Le mot Naasé Benishma est assez. Nous avons maintenant, troisièmement, dans l'Exode, chapitre 32, versets 1 à 6, on décrit le veau d'or. Et nous avons donc, dans le verset 4 exactement, Vayasu, Egel Masero, et ils ont fabriqué un veau de fonte. Vayomru Eile Elokeho Israël, c'est là la référence du verset, et ils ont dit, voici ton Dieu Israël, Asher Elohu Meret Mitraim, qui t'a fait sortir d'Égypte, avec le verbe au pluriel, qui montre bien qu'il s'agit d'une divinité qui représente des forces païennes. Alors nous avons un quatrième membre de la famille bovine qui apparaît. Nous avons le taureau, nous avons le veau, et nous avons la vache rousse. Donc, c'est dans Nombre, chapitre 19, verset 2, dans la parsha de Rouka. Alors, comme par hasard, c'est un roc, c'est-à-dire c'est un décret dont on ne connaît pas le sens, et dans ce roc, il est décrit au verset 2, Foro Adumo. Vous savez que la vache rousse avait ce caractère particulier de rendre impur les cendres de la vache rousse, de rendre impur ce qui était pur et pur ce qui était impur. Et le Maharal, dans la suite du Ner Mitzvah, explique après Yavan, dans le passage des Dômes, il montre comment à la fin des temps, la fin des temps n'est pas connue, l'arrivée du Mashiach n'est pas connue, c'était un croc, et il explique avec le Midrash Rabbah, un long Midrash Rabbah, je vous donnerai la référence tout à l'heure, et c'est repris d'ailleurs dans le Tzikta de Rav Kahana. Le Tzikta de Rav Kahana, vous avez tout un chapitre là-dessus. Il reprend en montrant comment tout ce verset qui explique comment on faisait la Egla, la Para Adouma, eh bien, montre à la fois la fin des quatre empires, et par ailleurs comment une deuxième lecture montre l'émergence d'Israël. Puisque la paradouma, c'est ce qui rend pur, ce qui est impur, ce qui rend impur, ce qui est pur, c'est même le rituel de la paradouma est expliqué en détail dans le Midrash. Nous n'avons pas le temps de le faire, il nous faudrait une étude entière pour cela. Dans le détail est expliqué comment cette transformation du pur en impur, les nations qui régissent le monde vont disparaître, et comment Israël va venir. Et alors, comme il y a, je vous cite quand même, alors un Midrash. On cite un Midrash, c'est dans Midrash Bamidbar Rabba, 19.8, qui dit simplement, c'est à la fin d'un long Midrash, où on parle de la Paradouma, et on dit, les sacrifices, habituellement, ils sont masculins. Pourquoi est-ce qu'ici, la Paradouma, c'est du féminin? Pourquoi est-ce qu'on a apporté une vache? Eh bien, dit le Midrash, c'est un enseignement de Rabbi Aïvou. Il dit, voilà, c'est comme lorsque dans un palais d'un roi, il y a un garçon qui a sali. Il a fait des saletés dans le palais. Alors le roi dit, que la mère vienne et qu'elle nettoie les saletés que le petit garçon fait. Alors dit le Midrash, sovo foro ou se chaper almasero egel. Que vienne foro la vache et qu'elle fasse la capara, qu'elle fasse réparation almasero egel. De l'épisode du veau. Donc ici, le lien, voyez-vous, est parfaitement indiqué entre la paradouma et le Hegel. Et enfin, dernière référence, nous avons dans Deutéronome, chapitre 21, versets 1 à 9, dans la parcha de Shoftim, vous savez aussi quelque chose qui est très mystérieux, c'est « ha-eglo o-arufo »,« egla-arufa ». Il s'agit donc, vous savez, de la génisse à qui on devait trancher le cou, lorsqu'on découvrait un cadavre dont on ne savait pas qui l'avait tué. Alors ça aussi c'est un thème extrêmement important qu'il faudrait étudier, et le verset 3 dit bien qu'il s'agit de Eglas Bokor, il précise bien, c'est bien une génisse, n'est-ce pas, de la famille de Bokor, de la famille du bétail du bœuf. Enfin, et là, nous savons aussi qu'il s'agit d'une capara, de même que la vache rousse servait de capara et de tikkun, de réparation, là aussi, on faisait un tikkun pour cette mort, ou comme dit le Zohar, c'est comme si l'ange de la mort n'avait pas eu sa part. Il est mort et on ne sait pas comment il a été tué vraiment. Or, je vous rappelle très brièvement que c'est cette paracha, nous raconte tous les textes de tradition orale, qu'étudiait Yosef lorsque il est parti, et Yosef est appelé Shor, le bœuf, dans Deutéronome 33, 17, et ceux de mes amis qui participent au cours de Gemara que nous faisons actuellement l'autorité de notre maître Rav Rotenberg, je leur lance un clin d'œil. Le rapport qu'il y a entre la définition du Shor et et ce qui est étudié ici est un sujet de réflexion qu'ils pourront approfondir avec beaucoup d'utilité. Puisque dans Baba Kama, qui est le texte que nous étudions, n'est-ce pas, n'oubliez pas que Shlosh Devorim, Elo Bashor, Hakeren, Hashen, Vaharegel, n'est-ce pas? On parle à la fois du Shor et on parle du Kerel. Et on cite comme exemple Joseph, puisqu'on cite exemple Bechor, Shoro, Hadarlo. Je referme cette parenthèse. Et donc, nous avons Joseph, qui est appelé Shor, qui est appelé le bœuf, et qui étudie cette paracha. Or, Joseph, qui va partir pour un endroit où le père croira qu'il est mort, mais où il n'est pas vraiment mort. Et d'ailleurs, il y a un texte du Zohar. Il y a un texte du Zohar, je trouve dans Zohar 1, 114a, qui dit « Shor, poro, egel, agolo », c'est-à-dire « Shor, le bœuf, poro, la vache, egel, agolo, les quatre, kulhu, verozo, ilo, ishtakru », ils se trouvent tous les quatre dans la même mystère, et le Zohar développe en montrant qu'ils sont tous destinés à faire réparation tikkun. En effet, n'oubliez pas que les sacrifices que Israël offrait sont destinés à faire le tikkun, la réparation du monde imparfait. Donc ça, c'est un premier thème de réflexion que je voulais vous soumettre. Le deuxième thème de réflexion, si vous voulez, porte maintenant sur le fond. Sur le fond, c'est que nous avons trois points, si vous voulez, dans cette étude d'hier d'aujourd'hui. Nous avons donc ces trois points, mais nous les sentons avec beaucoup de difficultés aujourd'hui, parce que cette contestation entre la Grèce et Israël, elle se passe à l'intérieur des Dômes. Nous n'avons pas l'état pur, la contestation, comme elle a lieu historiquement à l'époque de Hanouka, et demain et dimanche, Rav Yehuda, Askenazi, nous parlera de Hanouka, toujours dans le Maharal. Nous sommes dans Edom, et Edom, vous savez, à l'étroit. Nous avons donc à la fois tantôt le problème de la destruction physique d'Israël, comme dans le rapport avec la Perse, tantôt le conflit intellectuel, comme il y a avec la Grèce. Donc il ne faut pas oublier cela, que les choses sont complexes. Mais disons, cette contestation entre la Grèce et Israël, elle porte sur quoi? Elle porte donc sur la sagesse. Nous avons vu l'ambiguïté. C'est-à-dire, si la sagesse n'est que sagesse, eh bien effectivement, les Grecs sont arrivés à une sagesse. Mais si une sagesse supérieure à la leur, différente, divine, alors ça, les Grecs n'y ont pas part, puisque nous avons vu, il n'y a pas de Torah chez les nations. Il n'y a de Torah qu'en Israël. Ça veut dire que Azus, ce qui est commun aux Grecs et à nous, ne suffit pas. Condition nécessaire pour attirer la sagesse, mais pas la Torah. Les Grecs n'ont pas compris. Monsieur Gordin, n'est-ce pas, disait souvent, on peut connaître l'hébreu et l'araméen, et avoir lu toute la Bible, tout le Talmud, et tout le Zohar, et avoir rien compris par la Torah. Donc il y a en plus, il faut avoir cette qualité spécifique, qui est celle d'Israël, qui possède en plus, j'espère que demain on développera ça, le Tselem, qui a été créé avec le Tselem à l'image de Dieu, qui a cette étincelle divine pour pouvoir comprendre jusqu'au bout la Torah. Différence entre... Deuxième point, les Grecs connaissent Israël. Enfin, contrairement à ce que, comme le disait Manitou très justement hier, lorsque la Grèce parle d'Israël et le combat, c'est en fonction de la cohérence d'Israël. Troisième point, la Grèce veut disqualifier Israël sur le point précis de quoi ? Du lien spécifique avec Dieu. La Grèce veut disqualifier sur le point du Chélek. Donc, premier point, il y a une contestation Grèce-Israël qui porte sur la sagesse. Deuxième point, la Grèce sait de quoi elle parle, un peu, quand elle parle d'Israël, en tout cas, elle le combat dans la cohérence d'Israël. Troisièmement, elle veut le disqualifier sur un point précis, qui est le lieu du lien spécifique. Alors, quelques remarques sur ces trois points. Premièrement, contestation en Grèce-Israël, c'est sur un plan de sagesse. Il n'y a pas de destruction physique d'Israël. Les Grecs ne veulent pas détruire comme les Perses voulaient. Nous ne sommes pas à l'époque de Pourim, on ne veut pas exterminer. Alors, sous Édom, c'est les trois. Donc, nous avons parfois la destruction d'Israël. Mais sur le plan de Yavan, il n'y a pas de destruction physique. D'ailleurs, l'hébreu, le juif, et M. Mélez l'a dit lundi soir très nettement, est accepté à bras ouverts s'il accepte de devenir un intellectuel seulement. Un intellectuel, mais rien d'autre. La Bible traduite en grec est étudiée comme un livre de sagesse humaine. La critique biblique, n'est-ce pas, a fait un travail remarquable, mais elle lit la Bible comme si c'était un livre de sagesse humaine. Lorsqu'une fois, les Grecs ont voulu traduire la Bible, mais une fois qu'elle est traduite, ils l'étudient comme un livre de sagesse humaine, et non pas comme un livre qui est le lieu du lien relèque entre Dieu et Israël. Deuxième point. Je vais très vite pour vous livrer ça à vos réflexions. Deuxième point, je dis, les Grecs connaissent Israël et nous savons que les Grecs savent. Il y a par exemple un piyout, vous savez qu'au jour des fêtes, on lit des piyoutim. Et il y a un piyout qui a été composé par Menachem ben Makir en 1096, que l'on lit le deuxième Shabbat de Hanouka, en tout cas dans le rite ashkenaz, et en 11e siècle, Menachem ben Makir écrit, lorsque les Grecs, et ici il se rapporte aux croisades, c'est-à-dire à Edom, mais dans son caractère de grec, lorsqu'ils étaient vainqueurs, qu'est-ce qu'ils disaient ? Vaïtsavu, Chakok de Keren Ashor, inscrivez sur la corne d'un bœuf. Donc ce thème est permanent, il n'est pas simplement une fois. C'est un thème qui est connu en tradition juive, puisque c'est le même thème qui est utilisé en allusion, même au XIe siècle, lorsque l'on veut parler des persécutions, lorsqu'on ne veut plus que les Juifs restent Juifs. D'autre part, il y a un texte dans Sophrim 5.13 qui montre, par exemple, qu'on avait l'habitude, dans certains cas, d'inscrire le nom de Dieu sur la corne d'un bœuf. C'est une Mishnah, il n'y a pas de Gemara à Sophrim, qui voit qu'est-ce qui se passe si on inscrit le nom de Dieu sur la corne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on l'enlever, etc. Donc, là aussi, la corne de bœuf, c'est quelque chose de connu. Sophrim 5, 13. Alors, si vous voulez, je sais que ça semble toujours très irritant lorsqu'on dit « les Grecs savent parfaitement de quoi ils parlent », lorsqu'on dit « les Grecs persécutaient Israël en fonction de la Torah d'Israël ». Puisque c'est ça que Maral va montrer. Hein. Ils ont dit « inscrivez sur un bœuf, sur la corne d'un bœuf », ils se sont mis. Eh bien, je vais vous dire une chose qui m'a frappé lorsque j'ai réfléchi un peu aux persécutions nazies. Persécutions nazies, lorsque Hitler, bon, qui est plus que Edom, qui est Amalek, a persécuté les Juifs, eh bien, ces persécutions ont pris un tour sadique, épouvantable. Et là, il y a eu les trois. Il y a eu humiliation, c'est-à-dire on veut dominer, Babel cherche l'honneur. On veut exterminer, c'est la Perse, qui physiquement veut exterminer. Et on veut également enlever la sagesse d'Israël, c'est ça ? L'interdiction de la religion juive, l'interdiction de l'étude, les trois existent. Mais de toute façon, ce qui m'a frappé chez Hitler, ce qui m'a frappé chez cette réincarnation d'Amalek, c'est que l'anti-judaïsme hitlérien combat les juifs selon, si je puis dire, le rythme intérieur de l'histoire sainte juive. J'en donne quelques exemples très brefs. Par exemple, vous savez qu'en général, les actions qui avaient lieu contre les ghettos se faisaient à Rosh Hashanah. Ce qu'on appelle l'héroïque révolte du ghetto de Varsovie est la suite de l'attaque du ghetto en 1943, le soir du Seder de Pessah. Le soir du Seder de Pessah, les Allemands ont choisi d'attaquer le ghetto de Varsovie. En 1938, au moment de la nuit, ce qu'on appelle la nuit du cristal, eh bien, on a rassemblé, par exemple, dans une ville, les Juifs dans une synagogue. On les a obligés à rentrer nu-tête dans la synagogue. On avait mis par terre un Sefer Torah qu'on avait ouvert. On les a obligés à piétiner le Sefer Torah. Et le président devait lire un passage du Sturmer, c'est-à-dire le journal antisémite, et les Juifs devaient répondre « Amen, oui, nous sommes des cochons » à chaque phrase du Sturmer. En face des SS, qui eux, j'ai vu la photo, dans l'antivage judaïca, qui eux étaient habillés et avaient un képi sur la tête. Les Juifs étaient nu-tête. Les Juifs qui a rassemblé en 38 voulaient faire leurs besoins, ça durait 3 heures, on les avait cueillis le matin dans leur appartement, eh bien, étaient obligés d'uriner contre les murs de la synagogue à l'intérieur. Donc, on voit là, c'est pas seulement du sadisme, c'est véritablement d'essayer de faire profaner à Israël les mitzvot. Vous savez qu'ils sont allés plus loin. Il y a, vous savez, un plan de Madagascar, si vous avez entendu parler de ça. Vous savez que Hitler, à un moment donné, avait fait le projet d'envoyer les Juifs à Madagascar. J'ai déporté tous les juifs à Madagascar. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On les déportait, plusieurs millions de juifs à Madagascar en 1938-39. Eh bien, pourquoi Madagascar parmi tant de juifs? Évidemment, on peut dire parce que Madagascar, le climat est très mauvais. L'agent juif, à l'époque, il ne se rendait pas compte qu'on allait vers l'extermination, a envoyé des délégués en 1939-40 pour étudier le climat en disant non, nous nous opposons, le Congrès mondial, excusez-moi. Non, nous nous opposons à cela, n'est-ce pas? On ne peut pas envoyer les juifs de Pologne, qui n'étaient pas encore envahis, et d'Allemagne, qui restent en Allemagne, à Madagascar, le climat est très mauvais, ils ne supportaient pas le climat. Or, pourquoi Madagascar? En étudiant ce problème, ce sont Madagascar, j'ai trouvé une chose extrêmement curieuse. J'ai trouvé qu'en réalité, il y a, je n'ai plus de référence ici, mais il y a un Allemand, un protestant allemand antisémite, qui s'appelle Paul de Lagarde, qui en 1885 avait fait le projet, déjà, d'envoyer tous les juifs du monde à Madagascar. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps auparavant, lors de la conquête de Madagascar, par les Français, il y a un missionnaire Lazari, qui s'appelle Joseph Briand, qui avait étudié la langue et les mœurs des Malgaches, et qui avait émis l'hypothèse que les Malgaches descendraient des Hébreux. En fait, les historiens ont montré maintenant qu'il n'en est rien, que c'est après l'influence arabe, en réalité, que le Malgache descend de l'influence arabe. Et alors, voyez-vous, donc, il n'y a rien de gratuit. Hitler voulait déporter l'île de Madagascar, parce que Madagascar, si vous voulez, c'était un lieu, dans sa cohérence, un lieu juif. D'autre part, vous savez que les trois mythes essentiels, Hitler, le nazisme, a toujours essayé de faire profaner. Vous savez qu'il y a trois mitzvot sur lesquels il est dit tu dois te laisser tuer, mais ne pas plutôt que de les violer. C'est l'idolâtrie, les rapports sexuels interdits et le meurtre. Or, vous savez que l'idolâtrie, eh bien, je voulais montrer qu'on imposait de profaner la Torah. On faisait en Pologne en décembre 39, lorsqu'une ville était occupée, lorsqu'on ne mettait pas tous les juifs dans la synagogue pour les brûler avec, on faisait une autre chose. On rassemblait les juifs religieux devant la porte et on prenait tous les sifrets Torah, tous les sefer Torah, et on les faisait brûler dans la synagogue. Et puis on disait, les juifs étaient devant la porte, et quand des juifs se précipitaient, parce qu'il y en avait plus qu'un, se précipitaient pour sauver les sefer Torah, et bien aussitôt, les Allemands les fusillaient sur place. Deuxième exemple, en ce qui concerne le meurtre, vous connaissez cet exemple classique. Cet exemple célèbre, qui est un fait, une réalité. D'ailleurs, mon ami Gatti, vous connaissez l'auteur Armand Gatti a tiré un film, L'Enclos, qui est maintenant plus très connu. Les Allemands ont pris deux juifs, ils ont enfermé dans une cellule, en disant, eh bien, celui des deux qui tuera l'autre aura la victoire de notre. Enfin, je ne parle pas des énormités sexuelles que les Allemands ont fait avec les juifs, vous les connaissez, et ce n'est pas la peine d'y insister, depuis les chiens spécialement dressés pour violer les femmes dans les camps d'Auschwitz, jusqu'aux expériences médicales, ou le fait, par exemple, dans un récit authentique que j'ai lu, d'obliger un homme à avoir des rapports sexuels avec sa sœur, par exemple. Donc, il s'agit véritablement de quelque chose qui a été fait. Par conséquent, mais, bien entendu, là aussi, Hitler ne connaissait pas la réponse. Rassenati l'a expliqué à propos du séminaire sur l'Holocauste. En réalité, Israël n'était pas coupable. Lorsque on leur forçait à violer la loi, ils n'étaient pas coupables parce que ça ne se faisait pas dans les conditions telles que la halakha indique que ce soit fait en public devant 10 juifs, etc. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que si on vous dit un jour les Grecs n'y connaissaient rien, eh bien, peut-être que dans 10 siècles, on dira non plus Hitler au fond, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'Hitler, de propos délibéré, persécutait les juifs. Je vais terminer. Cette persécution, les Grecs savent de quoi ils parlent. Enfin, Chélek. Chélek, et c'est là-dessus que je conclurai, eh bien, les Grecs ne sont pas un peuple athée. Les Grecs ne sont pas un peuple athée, mais il s'agit premièrement de la religion de l'intellect. Il s'agit d'une construction intellectuelle dans l'absolu. Et il s'agit du destin. Il s'agit du destin. Or, il y a une chose intéressante, c'est que si on regarde le mot destin, le mot destin en grec se dit moira. le destin. On parle en général du fatum. Alors, je ne ferai pas un jeu de mots, un mauvais jeu de mots, n'est-ce pas, hein, le juif ashkenaz que je suis, et qui prononce comme à l'Europe de l'Est, n'est-ce pas, lorsqu'il dit moire, eh bien, moire, c'est le mot mora, la crainte, n'est-ce pas. Là où les Grecs parlent du destin, eh bien, moi, juif, je parlerai de moire, n'est-ce pas, de la crainte de Dieu. Reishis chochma yirat Hashem. Mais non, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. S'il y a des hellénisants dans la salle, ils savent que, étymologiquement, le mot moira signifie part. Exactement le mot chélek. Et c'est ensuite, par évolution, que ce terme qui signifie part, signifie à la fois la part donnée à chacun, la part que chacun aura, son destin figé. Son destin tel qu'il est figé. Donc nous avons d'un côté une religion de l'intellect, du sechel. Nous avons une pensée intellectuelle dans l'absolu. Mais il s'agit d'un destin, Moïra. Leur part est une part déterminée. Il n'y a que le déterminisme. Par contre, le chélek indique qu'il y a alliance. Ce que les Grecs récusent, ce qu'ils demandent à Israël, c'est de dire, dites qu'il n'y a pas de brite, il n'y a pas d'alliance spécifique entre un peuple donné et Dieu. Il n'y a pas alliance, il n'y a pas insertion dans l'histoire. Il n'y a pas lien spécifique avec un groupement humain donné. La différence, vous savez qu'on fait une bénédiction pour tout. On fait une bénédiction quand on mange, quand on boit, et quand on voit un sabre. Eh bien, on fait une bénédiction quand on voit un sabre des nations, quand on voit un grand savant. Si vous avez rencontré Einstein, était juif. Si vous rencontrez un grand savant non juif, un homme qui est un des grands de ce monde, vous devez faire une bracha. Et si vous rencontrez un rare, un grand, si vous rencontrez un gadol ador, vous devez faire une bracha. Quelles sont ces bénédictions? Le commencement est toujours la même. Boruch, Ato Hashem, Elokeinu Melech Olam, tu es béni Seigneur, mon Dieu, tout terreau à l'univers. Quand il s'agit d'un grand d'Israël, Shecholak Mechof Moso Leisrael, qui a donné en part, Chelek, qui a donné une partie, Mechof Moso de sa Chochma. C'est Dieu qui a donné en part de sa Chochma à qui? L'Iréov, à ceux qui le craignent. Mon jeu de mots sur Moïre tout à l'heure, c'était un jeu de mots, mais n'était pas complètement gratuit. Réchis Chochma, pour la Chochma Torah, le commencement de la sagesse, c'est ce qu'on dit tous les matins au réveil, Réchis Chochma Yirat Hashem, le commencement de la sagesse divine, la sagesse Torah, qui n'est pas la sagesse grecque, c'est Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Alors, chez Rolas, qui a donné une partie de sa sagesse, qui a donné une partie de la Torah à qui? À ceux qui le craignent. Pour entrer dans la Torah, il n'y a pas seulement Azus. Azus est commun aux Grecs et Israël. Pour pouvoir étudier, il faut avoir cette force. Mais uniquement avec Azus, sans Yirat Hashem, si on n'est pas des craignants de Dieu, eh bien, on ne peut pas avoir ça. Par contre, quelle est la bénédiction que l'on fait quand on voit un grand de ce monde, un vrai sage des nations? Boruch Ato Hashem le Kenomer Halom, la même dit la bracha, chez Nosan, Mechok Moso, le Vousorodom. Il n'y a pas de part, Chélek, il a donné. Quelque chose que j'ai donné, je n'ai plus part. Un don, il y a coupure totale. Il a donné, gratuitement, il a donné, mais pour que de sa chagesse, le beau sang vos hommes, comme le disait le parabole Kenazi, peut-être du Rabouzner, l'étude de la science, l'étude de ce monde, c'est là que nous découvrons aussi que Dieu est créateur. Il s'agit d'une forme, d'une vraie science. Par conséquent, nous rendons également une vraie bénédiction devant celui qui fait connaître la force de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a part. Je crois que dans ces deux bénédictions que Pierre Simsovic m'avait signalé d'ailleurs, Pierre Simsovic qui fait un cours d'ailleurs très intéressant actuellement au Centre Rashi sur le Maharal de Prague, sur le Der Chaim auquel vous pouvez assister, voilà la différence. Par conséquent, je crois qu'on peut dire en deux mots que toute la différence est entre le Dieu des philosophes et le Dieu de l'histoire. N'est-ce pas? Pour les Grecs, la sagesse aboutit donc au Dieu des philosophes. C'est un Dieu intellectuel. Par contre, la Torah aboutit au Dieu de l'histoire, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Monsieur Gordin pouvait écrire à juste titre, la preuve de l'existence de Dieu, c'est l'existence du peuple juif. Et je vous renvoie d'ailleurs à trois articles très importants. L'un de Joseph Banner, Conception rabbinique de l'histoire, qui a paru dans Rabbi Banner, qui est un historien et qui est un élève de M. Gordin. Dans Évidence, numéro 36, décembre 1953, Je vous renvoie à un article de Léon Askenazy qui étudie la méthodologie grecque et la méthodologie de la Torah dans l'héritage du judaïsme et l'université, qui a paru en décembre 57 dans une publication de l'école d'Orsay. Je vous renvoie enfin à l'article de M. Jacob Gordin, mon maître, Jehuda Alevi et l'hellénisme, qui a été écrit avant la guerre de 39, qui a été réédité dans Évidence numéro 23 et qui vient de paraître dans Dagesh numéro 2, donc qui est en vente depuis 3 jours, page 5-11, et qui montre bien la différence fondamentale. Et M. Gordin est un philosophe, c'est un des grands philosophes de notre époque, qui est devenu un des grands hachamim de notre époque. Un grand philosophe qui est devenu un grand sage, il montre parfaitement, à partir de Judas Lévi, ce que maladroitement j'ai essayé de montrer à travers un texte du Maharal, la différence qu'il y a entre l'hellénisme et la Grèce. Et je conclurai par conséquent, on comprend à ce moment-là pourquoi Israël, même lorsqu'il cesse d'être Israël dans ses actions, même lorsqu'ils ne sont plus ses fils, garde en essence une propriété telle qu'il y a une différence radicale entre Israël et les nations. À propos de Pourim, dans un des derniers textes que M. Gordin a relu avant sa mort, qui a été publié à partir de notre secours, mais qu'il a relu et qui a paru dans un livre qui s'appelle « À propos de Pourim », dans un livre édité par les Zeïev en 1946, M. Gordin, et vous savez, Pourim, c'est aussi un miracle caché, un peu comme Hanouka est un miracle caché, il y a seule la fiole d'huile qui brûle. Eh bien, M. Gordin, les textes disent « Il faut qu'il y ait travail entre les peuples et Israël. Nous ne sommes pas isolés. » Malheureusement, très souvent, ça ne se fait pas en coopération. Mais le but, Israël, luttant contre le mal, d'accomplir cette œuvre de Kapara. Et M. Gordin disait, en raison des miracles que tu as fait en ces jours-là et de notre temps, la même bracha, vous savez, se fait à Hanouka et à Purim. M. Gordin disait, il ne faut pas dire, en raison des miracles que tu as fait ces jours-ci, basmanazé de notre temps, il faut ajouter et de notre temps. Et M. Gordin concluait.